Bienvenue sur Radio Créaume. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4-5-6 décembre 2009.
Alors, nous commençons avec la première présentation. Et nous avons donc deux intervenantes, Rosaline Rinfré-Raynor et Elisabeth Lecieux, toutes les deux de l'Université de Montréal, rattachées au CRIVIF. Maryse Rinfré-Raynor est professeure émérite à l'École de services sociaux de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Elle est cofondatrice et directrice de ce centre depuis 15 ans. Et elle a été une des premières chercheurs québécoises à s'intéresser à cette problématique de la violence faite aux femmes, particulièrement, bien sûr, la violence conjugale. Elle a participé avec ses nombreuses études sur le sujet à l'essor de la pratique sociale relativement à cette problématique. Nous avons à côté une autre personne qui va se joindre. C'est une présentation à deux voix. Donc, Elisabeth Lecieux est coordonnatrice de recherche justement dans ce centre, le CRIVIF. Elle a réalisé un doctorat sur l'apprentissage de la lecture en contexte de violence familiale. Ses champs d'intérêt incluent la violence à l'endroit des femmes et des enfants et les facteurs de résilience en situation en crise. Leur communication s'intitule « Les services offerts par les maisons d'hébergement du Québec, portraits et enjeux ».
Alors, bonjour. Merci d'être ici ce matin. Un dimanche matin, 9 heures, je pense qu'il faut le faire, comme on dit au Québec. Alors, ceci témoigne certainement de votre engagement à lutter contre la violence faite aux femmes, et en particulier la violence conjugale, ce qui est l'objet de notre présentation ce matin. Elisabeth Lecieux et moi, nous allons nous partager, nous allons tenter de faire ça le plus doucement possible et nous travaillons ensemble depuis un peu plus de 2 ans, donc il était logique que nous partagions cette présentation. Alors, le plan de notre présentation, donc dans un premier temps, nous allons avoir un regard sur les besoins des femmes victimes de violences. Dans un deuxième temps, nous allons regarder un peu plus le portrait des services offerts en maison d'hébergement au Québec. Troisièmement, nous allons regarder certains défis que posent les femmes en contexte ou situation de vulnérabilité aux maisons d'hébergement. Et enfin, nous allons regarder un bref aperçu des études en lien avec la violence conjugale. Alors, le premier volet est le regard sur les besoins des femmes victimes de violences. Alors, ce que nous voulons faire ici, c'est brosser un tableau sur la notion de besoin. Très rapidement, qu'est-ce qu'un besoin? Alors, le besoin se définit comme un écart entre une situation existante et une situation jugée idéale, normale, minimale ou souhaitable pour une population dans un contexte donné. L'évaluation des besoins s'intéresse tant aux problèmes sociaux d'une communauté qu'aux besoins qui en découlent. Et quoi qu'apparenté, on distingue habituellement les concepts de problèmes et de besoins. Ainsi, on parlera de violence conjugale comme un problème social et on parlera des besoins des femmes victimes de violences. Alors, le regard sur les besoins des femmes victimes de violences conjugales, nous avons différents types de besoins. Les besoins sont multiples et ils ne se situent pas dans une seule sphère de la vie. Dans un premier temps, ce qu'on rencontre, ce sont des besoins à court terme, donc des besoins de soutien émotionnel et psychologique. Et ces besoins-là se présentent habituellement au moment où la femme arrive en maison d'hébergement. Dans un deuxième temps, ces besoins s'accompagnent des besoins de support et d'accompagnement dans l'action, dans le sens d'une aide plus pratique et tangible, engendrant des actions, et nous définirons les actions un peu plus tard. Et finalement, à long terme, nous avons des besoins de suivi et de soutien social, tout ceci dans la perspective que la femme puisse tirer profit de ce qui se passe dans la maison, de ce qu'elle vit dans la maison d'hébergement, pour reprendre son autonomie dans la communauté. Alors, si nous regardons maintenant de plus spécifiquement les besoins tels que je vous les ai décrits, nous avons d'abord au niveau des besoins de soutien émotionnel et psychologique, la littérature nous renvoie au besoin d'être protégé et de se sentir en sécurité, à la gestion des émotions liées à l'expérience de violence et aussi à la gestion des émotions avec les enfants ou l'enfant qui accompagne la victime ou au moment où elle se présente dans la maison d'hébergement, alors au moment où la mère se présente. Les besoins de support et d'accompagnement dans l'action, donc les besoins à moyen terme. Alors, les besoins de support et d'accompagnement renvoient aux besoins de soutien plus pratiques et tangibles. Certains de ces besoins ont comme particularité de renvoyer aux ressources de la communauté. Il s'agit notamment des informations et supports dans diverses démarches, comme les actions légales, l'autonomie fonctionnelle et financière, le logement sécuritaire, donc l'obtention d'un logement sécuritaire après, et ensuite l'ajustement dans la relation avec les enfants. La littérature amène à... et dans un troisième temps, nous avons les besoins de suivi et de soutien social, donc les besoins à plus long terme. Et ceci renvoie au suivi et à l'accompagnement de la consolidation de ce qui a été acquis au sein de la maison. Il s'agit d'un accompagnement autant au niveau des démarches à faire qu'au niveau du soutien affectif. Alors, je passe maintenant la parole à Elisabeth qui va vous présenter le portrait des services offerts en maison d'hébergement au Québec.
Bonjour à toutes et à monsieur. En deuxième partie de cette présentation, donc, on vous propose de faire un état des lieux des services offerts par les maisons d'hébergement du Québec. C'est un état des lieux qui a été fait à la suite de la passation d'un questionnaire à toutes les maisons d'hébergement du Québec. Un questionnaire qui portait sur les services offerts par les maisons, puis sur toutes les activités offertes par les maisons. Et elles sont assez nombreuses, ces activités. Actuellement 103 maisons d'hébergement au Québec et l'état des lieux qu'on vous propose aujourd'hui s'appuie sur les réponses de 89 maisons d'hébergement. Alors, pour reprendre ce qu'on vient de vous présenter sur les besoins de soutien, sur les besoins des femmes victimes de violences conjugales, en fait, on a distingué plusieurs types de services offerts en maison d'hébergement. D'abord, on a les services donc, qui répondent aux besoins de soutien émotionnel et psychologique. Donc, il y a l'hébergement donc, qui permet aux femmes d'être en sécurité. L'hébergement est offert par 98,9% des maisons. C'est pas 100% parce qu'au moment où on a fait circuler notre questionnaire, il y a une maison qui était sur le point de développer ses services d'hébergement, mais ça n'avait pas encore été fait. Actuellement, cette maison est ouverte. Je précise que la cueillette des données s'est faite en 2008. Ensuite, il y a les consultations individuelles internes offertes par 98,9% des maisons. Des consultations de groupe internes par 93,2% des maisons. Donc, quand je dis interne, c'est les services offerts au sein des maisons d'hébergement. Les consultations individuelles externes offertes par 100% des maisons. Des consultations de groupe externes offertes par 80,7% des maisons. De l'écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. et un service de référence. Alors, je précise que quand on parle de consultation individuelle externe ou consultation de groupe externe, il s'agit des services externes offerts par les maisons d'hébergement. C'est-à-dire que ce sont des services qui sont offerts aux femmes victimes de violences conjugales qui n'ont pas forcément besoin d'hébergement ou l'hébergement en maison d'hébergement n'est pas adéquat. Je précise aussi que c'est un service qui est particulièrement développé ces dernières années par les maisons d'hébergement de manière à favoriser l'accessibilité des services à toutes les victimes. Ensuite, on a des services qui répondent aux besoins de support et d'accompagnement dans l'action. Donc le développement des compétences parentales, 92%, l'appui à l'autonomie, 89,7% des maisons, les services médicaux, les services de santé mentale, les services juridiques, l'aide financière ou sociale, les références vers d'autres sources, la coordination des services. Alors quand on parle de coordination, c'est lorsque les intervenantes vont accompagner des femmes dans des démarches diverses. Par exemple, si des femmes sont à la recherche d'emploi, il va falloir qu'elles gèrent les dossiers liés aux démarches de recherche d'emploi, mais aussi des démarches liées à la recherche d'aide sociale en attendant de pouvoir trouver un emploi. Alors, ces différents services ou ces différents types d'accompagnement sont offerts en maison. Ça peut être le cas du développement des compétences parentales, de l'appui à l'autonomie, la référence vers d'autres sources. Puis on a aussi les autres services, comme les services médicaux, services de santé mentale, ne sont pas forcément offerts au sein même de la maison. Ils peuvent être offerts en dehors de la maison, dans une autre source, mais dans ces cas-là, la maison d'hébergement peut proposer un transport, voire un accompagnement d'une intervenante pour que les femmes hébergées puissent bénéficier de ces services-là. Et puis enfin, on distingue les besoins de les services qui répondent aux besoins de soutien social, comme le suivi post-hébergement, offert par 96,6% des maisons, et puis les maisons ou appartements de seconde étape offerts par 20,5% des maisons, donc dans une moindre mesure. Le suivi post-hébergement, c'est comme les services externes, c'est particulièrement développé ces dernières années. Il permet de faire, comme Maryse vient de le préciser, de la consolidation des acquis, consolider tous les acquis, tout ce qui a été acquis au sein de la maison d'hébergement. Et donc depuis peu de temps, les maisons d'hébergement offrent ce service de relance pour accompagner les femmes une fois qu'elles sont sorties des maisons. On va enchaîner avec la troisième partie qui porte sur le défi des maisons d'hébergement, les femmes en contexte de situation de vulnérabilité.
Alors, ici, cette section-ci, ce volet-ci, est sur le défi des maisons d'hébergement pour les femmes en contexte ou situation de vulnérabilité. Alors, j'attire votre attention sur l'attribution de la vulnérabilité. Nous croyons en effet que certaines femmes évoluent dans des contextes et des situations de vulnérabilité et que ces femmes sont influencées par ces contextes, ce qui les rend plus à risque de victimisation. Alors, nous allons regarder ensemble certaines situations ou contextes de vulnérabilité. Alors, plusieurs des femmes hébergées ont des caractéristiques additionnelles à celles de la problématique de la violence conjugale et ces caractéristiques demandent des interventions adaptées. Parmi celles-ci, on remarque les femmes âgées, les femmes ayant des limitations fonctionnelles, les femmes issues des minorités culturelles, les femmes ayant des problèmes de santé mentale, les femmes toxicomanes, les femmes itinérantes, les femmes autochtones, et les femmes lesbiennes. Ces caractéristiques ont la particularité de placer les femmes en situation de contexte de vulnérabilité, ce qui a pour effet d'augmenter leur taux de victimisation, de faire en sorte que les formes de violence qu'elles vivent sont plus graves, sont plus sérieuses, et que les obstacles dans les demandes d'aide sont plus importants et que l'accessibilité aux services est réduite. On pourrait, pour chacune des situations ou des caractéristiques des femmes présentées ici, vous dressez un portrait des difficultés qu'elles rencontrent. Mais nous avons choisi, pour le besoin de la présentation, de vous présenter les défis auxquels sont confrontés deux groupes de femmes. D'abord, les femmes issues des minorités culturelles et les femmes âgées. On veut regarder quels sont leurs besoins et quels sont les besoins de services, parce qu'on distingue les besoins des femmes des besoins de services pour ces femmes-là. Alors, si nous regardons les femmes en situation et contexte de minorité culturelle, il y a plusieurs facteurs qui influencent leur vulnérabilité. D'abord, la perception faussée de la violence conjugale, et ceci dans la définition même de ce qu'est la violence conjugale. Dans plusieurs communautés culturelles, en fait, la violence est une réalité à endurer plutôt qu'une réalité à fuir, malheureusement. Ces femmes-là, souvent, ont des craintes par rapport à la réaction de la famille et de la communauté. Paradoxalement, les familles sont souvent un soutien pour les femmes. Mais par ailleurs, la famille, très souvent, indirectement par ses propres valeurs, impose des pressions sur la femme pour qu'elle maintienne l'unité familiale. Ces femmes-là, très souvent, ont peu de connaissances des services offerts. Elles ont des craintes par rapport aux services offerts et à l'ensemble des services de santé sociaux. Souvent, elles craignent pour leur statut légal. Pensons aux femmes parrainées, par exemple, par leur conjoint ou par un proche. Pensons également au racisme que les femmes peuvent rencontrer quand elles demandent des services ou encore aux intervenants qui ne sont pas toujours préparés pour faire face à ces femmes. Il y a des barrières linguistiques, ce qui a pour effet d'augmenter l'isolement des femmes. Et ensuite, des barrières culturelles. Il y a un décalage souvent entre le type de services qui sont offerts. On parle souvent d'interventions individuelles et souvent les femmes des communautés culturelles font partie d'une communauté, font partie d'un groupe religieux, font partie d'une famille et il ne faut pas les oublier. Les femmes âgées, je vais passer très rapidement. Donc, pour les femmes âgées, la littérature nous montre par ailleurs que les femmes âgées consultent de plus en plus les maisons d'hébergement. C'est un phénomène récent, mais c'est un phénomène important. Mais il reste que les femmes âgées, elles ont des perceptions traditionnelles des rôles sexuels, de la famille, à cause des valeurs qu'elles ont intégrées au moment où elles ont passé à travers les stages de la vie. Les craintes par rapport à la réaction de la famille, on peut comprendre. Peu de connaissances sur les services offerts. Craintes par rapport aux services offerts et à l'ensemble des services de santé et des services sociaux. Très souvent, elles ont une méconnaissance des services. Elles pensent que les services ne sont pas pour elles, que ces services-là sont réservés à différents groupes plus jeunes. Il y a des barrières physiques. Souvent, les femmes âgées où toute personne âgée a de la difficulté à se déplacer. Souvent, elles sont aux prises avec des problèmes de santé. Et enfin, des barrières financières, car très souvent, ces femmes-là ont vécu avec leur conjoint et elles étaient dépendantes financièrement de leur conjoint. De quitter le conjoint veut dire une certaine violence économique. Alors, je repasse la parole à ma collègue Elisabeth. 2 minutes.
Pour conclure cette présentation, on vous propose de faire un petit bilan en fait, des études en lien avec la violence conjugale et en lien avec la violence conjugale selon la perspective des femmes. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il existe, jusqu'ici, il y a plusieurs types d'études qui ont été faites sur la violence conjugale, des études de prévalence de la violence conjugale aussi bien au Canada que partout dans le monde, des études nationales sur les services offerts en violence conjugale, des études du degré de satisfaction des femmes par rapport aux services et des études des perceptions de l'efficacité des services par les femmes et les intervenantes. Alors, les études de prévalence de la violence au Canada et partout dans le monde, elles visent à cerner le nombre et les caractéristiques des personnes qui rapportent de la violence au cours de la période, d'une période considérée, qu'il s'agisse d'une année ou de 5 ans. C'est par exemple, je parlais du Canada, mais c'est par exemple le cas des études de l'Institut de la statistique du Québec qui rapporte un certain nombre de chiffres à ce niveau-là. Ensuite, on a les études nationales des services offerts en violence conjugale, donc qui consistent en recensements nationaux, consistant en données descriptives des services subventionnés par le gouvernement et des des caractéristiques des femmes et des enfants faisant appel à ces services. C'est notamment le cas des études de Statistique Canada. On a des études sur le degré de satisfaction des femmes par rapport aux services. Donc là, c'est les services en violence conjugale de manière générale et les services offerts par les maisons d'hébergement aussi. Des études du degré de satisfaction qui portent sur les relations avec les intervenantes, donc entre les femmes et les intervenantes. De manière générale, on constate que ces relations sont positives et laissent place à de l'empathie, de l'encouragement, des encouragements et un bon accompagnement. On constate aussi de bonnes relations avec les autres femmes prises en charge dans le cadre des maisons d'hébergement ou des groupes de soutien. Donc des relations qui laissent place à du soutien mutuel, une amélioration des habiletés à communiquer les émotions notamment, et un maintien du support social après l'hébergement, donc qui répond au troisième besoin à long terme qu'on a énoncé tout à l'heure. Ensuite, on a des études sur la perception de l'efficacité des services par les femmes et les intervenantes. Donc, de manière générale, on constate que les services offerts permettent de réduire la violence, voire de faire cesser la violence, et même les risques de revictimisation, qui est une efficacité du soutien offert, tant dans l'amélioration des aptitudes à prendre des décisions, donc à faire preuve d'autonomie, dont on parlait tout à l'heure, un sentiment de sécurité, notamment grâce à l'hébergement, et puis un développement du sentiment d'efficacité et de la résilience. Toutefois, on constate que ces études ont des limites. Je ne sais pas du tout où on en est par rapport au temps. Ah, ok. Ok. On constate un certain nombre d'études par rapport à, de limites par rapport à ces études. D'abord, il y a les études descriptives. Leur limite, c'est qu'elles ne donnent qu'une description des services ou des personnes qui consultent les services sans mesurer l'impact et sans prendre en considération les personnes qui ne participent pas à ces études ou qui n'utilisent pas ces services. Certaines de ces études sont essentiellement basées sur un échantillon restreint, ce qui oblige à une certaine prudence dans l'interprétation et la généralisation des résultats. On observe aussi très souvent l'absence de groupes de contrôle, donc un groupe de comparaison avec des femmes, par exemple, qui ne vivraient pas de la violence conjugale, et puis peu d'études longitudinales, donc sur plusieurs années, qui permettraient de voir quel est l'impact des services offerts aux femmes victimes de violences conjugales, notamment. Alors, les questions qui émergent et qui pourront peut-être nourrir une réflexion, une discussion à la suite des présentations, c'est quel est l'impact des services offerts? Quels sont les besoins des femmes versus les besoins des organismes? Parce qu'on observe que, autant dans nos données à nous que dans la littérature, il est difficile de distinguer les deux. La diversité des services est-elle une garantie d'efficacité de l'intervention? La question se pose. Et quel est l'effet de ces services sur les femmes en contexte ou situation de vulnérabilité, puisque c'est une réalité à laquelle les maisons d'hébergement sont de plus en plus confrontées, notamment au Québec? Je vous remercie de votre attention.